signature musicale, Claire de Castellane.
Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui en compagnie d'un écrivain, également homme de théâtre, qui depuis bientôt 30 ans figure parmi les auteurs francophones les plus lus, les plus traduits et les plus représentés. Il publie avec une régularité d'horloger des romans, des pièces de théâtre, des contes initiatiques ou encore des nouvelles. Il monte lui-même sur scène pour jouer les personnages sortis de son imaginaire et aussi un peu de sa vie, comme c'est souvent le cas avec les écrivains. Je pense par exemple, et là vous allez commencer à deviner de qui il s'agit, à Monsieur Ibrahim ou les fleurs du Coran, ou encore en ce moment Madame Pilinchka et le secret de Chopin. Il met en mots l'ineffable, l'inavouable, en tout cas l'intime, le pudique et le spirituel, souvent servi par une franche trivialité. Bref, il est un porteur de mots, un passeur de messages, et le grand public le lui rend bien. Bonjour, Éric-Emmanuel Schmitt.
Bonjour.
J'ai voulu vous annoncer un peu longuement comme ça, mais ça reflète votre action, votre activité d'écrivain qui ne cesse de se renouveler.
Tant mieux. Mais effectivement, moi j'ai l'impression d'être un jardin où il y a beaucoup d'arbres qui portent des fruits différents. Vous évoquiez les romans, les contes initiatiques, les nouvelles, les pièces de théâtre, parfois même un film. Et j'ai l'impression d'être le jardinier qui va voir ce qui est mûr. Alors il y a des fruits qui mettent très longtemps à mûrir. Il y a des histoires que je porte des années. Et puis, il y a un moment où je sens que, voilà, c'est urgent. Parce que j'écris toujours avec le sentiment d'urgence, avec le sentiment que c'est peut-être le dernier livre.
Oui, alors il y a un équilibre entre une grande... je ne sais pas si le mot prolixité existe.
Prolificité, on va dire.
Voilà. On vous sent aussi extrêmement organisé et pourtant il y a l'abondance. Vous combinez ces deux choses-là et vous maintenez le sentiment d'urgence.
Oui, c'est très important de faire les choses avec intensité, en se disant que c'est là maintenant que c'est essentiel, qu'il n'y a rien d'autre qui compte. C'est quand vous êtes sur scène, hein,
vous poussez tout le reste.
Voilà. Et en fait, je fais beaucoup de choses dans ma vie, mais toujours avec cette espèce d'intensité, qui est sans doute quelque chose qui vient de l'enfance, parce que l'enfant est intense, l'enfant est toujours présent à tout ce qu'il fait.
Mais alors, quand vous avez cette urgence, donc une chose qui est loin dans la tête, mais qui est là, puis qui se rapproche, et d'un coup, il faut qu'elle vienne. Vous avez la capacité, dans votre vie, de pousser tout pour vous y mettre, c'est ça
Oui.
On le souhaiterait tous, le
faire. Parfois, c'est difficile, parce que j'ai beaucoup d'engagements, beaucoup de rendez-vous pris à l'avance, des tournées dans les pays étrangers pour les livres ou même pour le théâtre. Et alors, si du moment que j'arrive à m'isoler quelques jours pour que le bébé commence à me parler, à prendre naissance, après je peux voyager en prenant soin du bébé. C'est-à-dire je peux continuer à écrire dans les avions, les trains, les hôtels. Mais les premiers jours, je dois être tranquille à la maison, chez moi, dans le silence.
Donc ça, vous pouvez vous trouver ces moments-là.
J'arrive à trouver ces moments-là. Voilà.
On va parler Chopin aujourd'hui. On va laisser parler Chopin. On va essayer de tendre l'oreille pour écouter ce qu'il a à nous dire ou ce que vous faites l'intermédiaire, en fait.
En fait, je ne sais pas si un compositeur a quelque chose à nous dire. Il a quelque chose à nous faire ressentir et à nous faire éprouver.
Mais vous êtes quelqu'un qui exprimait l'ineffable. Hein.
Oui, ça, je suis à la recherche de ça.
Et la musique, en fait, par définition... raconte l'ineffable, ce qu'on ne sait dire, comme diraient les Belges.
Oui.
Et du coup, vous êtes très musicien, vous êtes auteur parce que... vous êtes un compositeur contrarié ou quelque
chose.
Oui,
c'est ça. je suis écrivain par défaut d'être le musicien que j'aurais souhaité être. Ça va, je peux être interprète, j'ai fait le conservatoire jusqu'en supérieur. Mais je n'ai pas d'imagination musicale, alors que j'en ai une énorme pour inventer des histoires.
En tout cas, vous pouvez nous interpeller votre public sur cette nécessité d'écouter ce que les compositeurs ont à nous dire quand même. Est-ce qu'on peut le dire comme ça?
Exactement. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'éprouve un grand bonheur à emmener le public et qui me suit dans le rire comme dans l'émotion.
Là, je vais vous couper, mais vous êtes au Théâtre Rive Gauche tous les soirs pour Madame Pilinchka et le secret de Chopin. Donc, c'était un de vos contes de La Visible que vous avez publié il y a un an et que vous avez tout de suite pensé à jouer.
Oui, parce que je me suis dit que si je le faisais sur scène, il y aurait ce qu'il n'y a pas dans le livre, la musique. Car je suis sur scène avec un grand pianiste,
Nicolas Stavy.
Nicolas Stavy.
Merveilleux pianiste.
Ah oui. et qui est passionnant, qui est fort, qui est tendre, il a tout. Et donc je me suis dit, voilà, là j'emmènerai le spectateur au bout du voyage que je lui propose. Et donc, en ce moment, j'emmène les gens dans cet univers qui est à la fois l'univers de mon enfance, mais surtout dans l'univers intime. Parce que Chopin, c'est le musicien de l'intime. Chopin, il écrivait et il jouait piano fermé. Moi, j'essaye d'écrire piano fermé. C'est-à-dire, et il s'adresse à l'autre, mais celui qui est près de lui. Il dépasse pas le cercle d'intime. C'est un homme qui fait une confidence. Et ça, je trouve que c'est la beauté de l'œuvre de Chopin, et c'est presque un modèle pour un écrivain, parce que on doit être à ce degré d'intimité avec son lecteur. Les plus beaux sons d'un texte ne sont pas les plus puissants, mais les plus doux. C'est ce que m'a appris Chopin.
Pendant l'écoute, Eric Emmanuel Schmitt, vous avez dit « c'est incroyable ».
Oui. Comment on peut arriver à faire chanter un instrument à percussion ? Martha Argerich, Chopin, c'est ça. Quand on pense que c'est des marteaux qui tapent des cordes et qu'il peut y avoir autant d'intention, d'intonation, de douceur, de timbre, de légèreté, d'alanguissement, je suis ébloui.
Mais là, c'était donc la fin du mouvement lent du deuxième concerto pour piano de Chopin avec Martha Argerich, l'Orchestre symphonique de Montréal dirigé par Charles Dutoit. Et c'est vrai qu'elle met en valeur le principe de l'enfoncement des touches du piano. C'est quand même le seul instrument au monde qui permet ça. Donc c'est à la fois percussif, cordes frappées, et clavier, mais avec on peut façonner sa note presque comme un violoniste, quoi. Mais bon, faut savoir le faire. Hein.
Oui, c'est pour ça que ce que je raconte dans Madame Pilinska, le secret de Chopin, c'est que quand j'arrive chez cette Madame Pilinska, grande chopinienne devant l'éternel,
son nom peut porter à le croire.
Voilà. Pour travailler mon toucher, elle me dit, allez au jardin de Luxembourg et apprenez à cueillir des fleurs sans faire tomber les gouttes de rosée.
Comme quoi, être pianiste, c'est toute sa vie. Quoi.
Voilà, touchez plus un piano et puis liez les doigts à la respiration de votre corps. Donc, les deux premiers conseils de la première semaine, c'est apprenez à cueillir des fleurs sans faire tomber les gouttes de rosée et écoutez le silence, parce que la musique de Chopin sort du silence et y retourne, elle en est même cousue.
Mais elle vous a vraiment, c'était déterminant cet enseignement avec elle. Vous aviez 20 ans, il faut dire.
Mais c'est-à-dire, c'est un apprentissage qui n'est pas seulement un apprentissage de la musique, c'est un apprentissage de la vie. Parce que se rendre attentif, extrêmement attentif au monde,
ces gouttes de rosée, oui.
Les gouttes de rosée, pour le legato, elle me dit regardez le vent dans les arbres et regardez l'indépendance des feuilles et des ramures par rapport au tronc qui est la main gauche.
Tout ça, surtout chez Chopin.
Voilà, ouais. C'était des leçons cosmiques. Et en fait, ça m'ouvrait aussi à toute la nature. Donc, elle n'a pas fait de moi un grand musicien, mais elle a fait de moi un homme attentif, éveillé, sensible. Elle m'a dégrossi et elle m'a permis d'avancer sur mon chemin de vie.
Une rencontre importante que vous servez après au public pour son plus grand bonheur. Vous vouliez qu'on écoute Liszt, Schubert, Auf dem Wasser zu singen.
Oui.
Alors là, je vous laisse nous dire pourquoi.
Ben, d'abord, j'adore Schubert. Bon, je comprends l'allemand, donc je comprends souvent les paroles des airs de Schubert. Mais alors, il y a un miracle qui se produit avec certaines transcriptions de Liszt, c'est que c'est comme si on entendait les paroles. Il est arrivé en enrobant la mélodie d'harmonie, d'arrangement, etc., à diffracter tout d'un coup la mélodie et faire en sorte qu'elle ait aussi une progression dramatique et qu'elle dégage aussi du sens.
C'est Bertrand Chamaillou qui nous l'interprète, et avec le thème qui est d'abord au ténor, puis à l'alto, puis au soprano, donc qui circule dans toutes les voix et qui simule assez bien aussi le phénomène aquatique, une horizontalité réelle.
Thank you.
Bertrand Chamaillou, il venait de donner 2 heures de concert avec un orchestre en Allemagne et puis il a enregistré ce Auf dem Wasser zu singen. Alors Eric Emmanuel Schmidt, un grand merci de nous avoir fait écouter cette pièce pour piano aujourd'hui. C'est le bonheur.
Oui, c'est la joie.
Mais un bonheur qu'il faut revendiquer, chercher.
Oui, c'est un beau dimanche. On est au bord de l'eau. Voilà, il y a des amoureux. Il y a des hommes seuls qui regardent le ciel, qui regardent l'eau. Il y a des familles en pique-nique. C'est ce que nous raconte un peu l'histoire. Et lui, mm-hmm. il nous emmène avec un élan, avec quelque chose d'extrêmement vital. Oui, pour moi, c'est une musique de joie. J'avoue que de temps en temps, Nicolas Stavy, qui fait le spectacle avec moi, quand on se trouve quelque part, il me le joue.
C'est bien quand même.
Ah, écoutez, ça m'emporte. C'est comme si on m'avait, donné un tube de fortifiant. Je suis joyeux et de bonne humeur dès que j'entends cette musique.
Est-ce que c'est ce que vous cherchez à dire dans Journal d'un amour perdu, qui est donc votre livre qui sort en même temps de votre action sur scène, enfin de votre pièce de théâtre ?
Journal d'un amour perdu, c'est le livre que je n'aurais pas voulu écrire, puisque c'est le livre qui raconte ma mère. Alors, ma mère, j'avais envie d'en parler, mais ça commence le jour de son départ, le jour où j'apprends sa mort.
Qui était brutal. Hein,
voilà, qui était brutal. Et en fait, pendant 2 ans, moi qui écris un journal intime de façon tout à fait épisodique, mon journal intime a pris beaucoup de place parce que j'avais besoin de la retrouver dans mon journal intime, j'avais besoin d'écrire sur elle, j'avais besoin de lui redonner la vie par les mots, puisque ça, c'est un don qui m'a été donné. Et puis, sans doute aussi parce que cette conversation de 57 ans, totalement joyeuse, que j'avais avec elle, était interrompue et c'était une grande souffrance. Et au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte que ce journal qui dessinait un chemin. C'est-à-dire, j'étais passé de l'effarement et de l'extrême tristesse, une tristesse qui va jusqu'au désir d'en finir.
Mais votre vie va continuer en même temps.
Et à la reconquête de la joie, à la reconquête progressive de la joie. Et quand j'ai vu que j'avais fait ce chemin-là, j'ai eu envie de le partager avec les lecteurs. Et donc, j'ai repris la matière de mon journal et j'ai écrit un livre, parce que ce n'est pas mon journal, c'est un livre qui a des structures d'attente, de découverte, et un chemin qui se dessine, mais qui est aussi totalement intime.
C'est un chemin de vie, parce que vous aimez finalement tracer des chemins de vie que les seuls chemins possibles sont ceux où on choisit pas le bonheur, c'est un mot un peu plat.
Il y a une décision du bonheur. Alors ma mère ne m'avait pas fait seulement le cadeau de la vie, mais le cadeau de la vie belle.
C'est ça que vous dites. Hein,
oui, elle était amoureuse de la vie, elle m'a transmis cet amour de la vie. Elle a fondé ma vie sur des grandes émotions. Et les émotions par rapport à la nature, l'émotion d'aller au théâtre pour la première fois, l'émotion de l'écoute de la musique. Et une vie réussie, c'est une vie bâtie sur ces grandes émotions, fondée sur ces grandes émotions.
Et donc, du coup, vous ne pouviez pas ne pas continuer malgré son départ, c'est ça ?
J'avais un devoir de bonheur. J'avais un devoir de bonheur. Et je n'arrivais pas à l'exercer parce que j'étais dans une tristesse épouvantable. Et je me disais, si elle me voyait dans cet état, elle serait folle furieuse. L'état dans lequel elle m'a mis en partant. Mmh. Et donc, j'ai pris la décision de remonter vers la lumière. Mais avant que la décision soit vécue par le corps, soit vécue par l'esprit, soit vécue par les sentiments, il se passe des mois de différé. Mais c'est cette reconquête progressive de la joie, du bonheur, du plaisir. Et puis cette façon de réhabiter le présent quand quelqu'un vous manque. Moi, pendant les mois qui ont suivi la mort de ma mère, je ne voyais dans l'expérience du monde que ce qui me manquait, c'est-à-dire elle. Le monde était vide, le monde était creux. Je ne voyais que ce qu'il n'y avait pas. Et du coup, je me réfugiais dans le passé, me réfugiais dans la nostalgie, la mélancolie. Moi qui ne suis pas nostalgique, qui ne suis pas mélancolique, parce qu'elle y était dans le passé. Et moi, je voulais être avec elle, avec en plus ce piège du souvenir. Le souvenir, c'est la présence de l'autre, mais son absence aussi. C'est les deux. Donc on est sous la lame d'un couteau. Mais on aime cette souffrance-là parce qu'à la limite, on se réfugie dans sa tristesse. C'est chez soi, la tristesse.
C'est un cheminement.
C'est un chemin.
On en passe par là.
Et quand tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait des moments d'exception, il y avait des bouées auxquelles je me raccrochais qui étaient les moments où je jouais sur scène ou les moments où j'écrivais un livre. Ça, c'était intact. Alors je me suis dit, peut-être que, certes, je replonge et je redescends au fond entre ces moments où j'ai la bouée, mais je vais peut-être finir par faire la planche. Et quand j'ai vu que de nouveau je faisais la planche et que je regardais le soleil, j'ai décidé d'écrire le livre. Pour dire que voilà, on peut avoir vécu un amour éperdu
Et long, enfin.
Voilà. Et long. Mm. Et être bousculé, mais être mis en danger par la fin de cet amour. Et malgré tout, au nom de cet amour, et parce qu'on a la force de cet amour qu'on a vécu, arriver à quand même réinvestir le présent et réinvestir le futur.
Petite question, est-ce que la musique aide ?
Oui, beaucoup. Je raconte dans le livre qu'il y a une croisière un peu tragique que je fais, que je devais faire avec elle, et puis elle meurt. Je faisais toujours une croisière avec elle. Comme ça, on passait 15 jours ensemble, tous les deux. Uniquement tous les deux.
Tous les ans ?
Ouais, tous les ans. Et puis, bon, j'avais évidemment accepté cette croisière, et elle n'était plus là. Heureusement, des amis m'ont accompagné. Mais j'étais dans un bateau où j'avais tout le temps été avec elle. Ça m'était insupportable. J'ai vraiment voulu en finir. J'ai ouvert la fenêtre en disant, bon, ça suffit. Et puis je ne l'ai pas fait parce que mon corps est plus intelligent que ma volonté. Mon corps s'est laissé hypnotiser par les flots et donc je n'ai pas sauté. Et le lendemain, je me suis dit, bon, c'est fini, maintenant tu as touché le fond, va falloir que tu remontes. Et c'est présenté d'une manière tout à fait gracieuse, la musique. C'est-à-dire qu'il y avait sur ce bateau mon ami Nicolas Stavy et qu'il a joué Consolation de Liszt. Et après une lecture de Dante qui raconte la mort.
Non,
et qui
là, raconte la consolation. Vous avez dû pleurer tout ce que vous pouviez.
Ben enfin, voilà.
C'est libératoire.
C'est là que j'ai commencé à remonter.
Eh ben. Alors on va écouter l'air de Barberine de Mozart.
Oui.
Parce que ça fait partie justement de ces pièces consolatrices. Même si c'est un micro-drame au sein de cet énorme opéra enchevêtré d'événements. Je vous laisse juste nous donner quelques éléments.
C'est une petite fille au milieu de la nuit, avec une lanterne à la main, qui pleure parce qu'elle a perdu quelque chose. Et tant que dure l'air, on ne sait pas ce qu'elle a perdu. Et c'est tellement tendre, éperdu, délicat qu'on se dit mais qu'a-t-elle perdu ? Son père, sa mère, son fiancé, sa virginité ? Non, une épingle. Juste une épingle. Et c'est ça les peines d'enfant. Une épingle, c'est aussi important que quelque chose...
Que de payer ses impôts. Je suis désolée, ça coupe un petit peu sec, mais il faut imaginer que c'était capté à l'Opéra de Liège. C'est le début du quatrième acte. Et tout de suite, arrive un récitatif où les autres demandent à Barberine « Mais qu'as-tu perdu ?» Parce que là, ils sont tous, ils se disent « Mais elle a perdu une catastrophe. » Merci Eric-Emmanuel Schmitt. C'était, ben voilà, c'est déjà fini, mais c'était bon. Donc, je vous souhaite toujours beaucoup de bonheur sur scène.
Merci.
Avec le public et à bientôt pour continuer à parler de musique et d'expression des choses fines.
Que vous Merci à vous Claire et bravo pour le choix des interprétations.
Merci à tous, au revoir.